Vous écoutez RTL.
RTL, il est 12h30.
RTL Midi.
Le 12h30, Vincent Parisot.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans RTL Midi. Nous sommes ensemble, donc comme chaque jour, pour une heure et demie d'infos réalisées avec vous, grâce à vos réactions, à vos témoignages, à votre vécu. Vous êtes d'ailleurs évidemment nombreux à vouloir vous exprimer au lendemain de l'attaque de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Alors on vous attend au 3210 pour réagir après le choc à l'assassinat du père Jacques Hamel, au débat politique qui s'est ouvert sur les mesures d'exception et l'état de droit, à ce qui s'est passé ce matin à l'Élysée, puisque vous le savez peut-être, François Hollande a réuni les représentants des différents cultes. Pour les musulmans d'ailleurs, le recteur de la Grande Mosquée de Paris a souhaité une réforme dans les institutions de l'islam. On peut en parler avec vous au 3210. Le président a ensuite réuni un conseil de défense, puis le conseil des ministres. Nous serons à l'Élysée dans un instant pour savoir si de nouvelles mesures sont envisagées. Dans 20 minutes, Anouar Bibesh, le président du CFCM, le Conseil français du culte musulman, pardon, sera l'invité d'RTL Midi. Et puis du côté de l'enquête, 27 heures après les faits, eh bien le deuxième terroriste est toujours en cours d'identification et la polémique, elle continue d'enfler autour du sort réservé au premier après deux tentatives de rejoindre la Syrie. Vous le savez, au cœur des débats, il y a ce bracelet électronique et l'assignation à résidence. Nous verrons que les magistrats qui l'ont décidé l'ont aussi fait sur la base d'un certain nombre d'assurances. 32-10, en tout cas, on vous attendait maintenant. Vous pourrez dialoguer avec le député socialiste Eduardo Riancipel qui dénonce les surenchères de l'opposition et sera avec nous à 13h05. Et puis, dans l'actualité également de ce mercredi, Air France, avec d'un côté la grève des hôtesses et des stewards qui permet quand même à la compagnie d'assurer 90% des vols, et de l'autre, eh bien, les comptes du groupe Air France présentés ce matin. Ils s'améliorent grâce notamment à la baisse de la facture carburant. Deux députés en première ligne contre le tabac à rouler, moins cher certes, mais plus nocif. Et puis en cette période de vacances, gare aux arnaques, la tentation est forte pour les commerçants, les restaurateurs peu scrupuleux. Alors le gouvernement a lancé une opération de contrôle et Martine Pinville, la secrétaire d'État au commerce, sera l'invitée d'RTL Midi à 13h30. Elle va dresser le bilan de cette opération et puis nous donner quelques trucs pour éviter de se faire arnaquer. Sur ce thème donc, que vous soyez client ou commerçant, dites-nous ce que vous savez, ce que vous avez vécu des arnaques de vacances et on attend vos témoignages au 3210. Côté ciel, Patricia Charbonnier, le soleil au sud toujours, mais de plus en plus de nuages au nord.
Oui, bonjour, ça ne change pas, toujours le même scénario. Plein soleil sur la moitié sud du pays, un petit peu d'instabilité, hein, comme tous les jours en montagne. Donc risque d'averse, surtout ce soir sur les Alpes, le relief corse et sur les Pyrénées. Et sur la moitié nord, c'est une nouvelle perturbation qui nous apporte pas mal de nuages. Et même localement, quelques pluies faibles pour cet après-midi. Sur la Bretagne, à Normandie, au nord de la Seine, les températures entre 20 et 35 degrés. 20 degrés à Brest, 24 à Reims, 25 à Paris, 28 à Strasbourg, 31 à Montpellier. Limar et 35 degrés pour le maximum à Nîmes.
Et la question du jour, sur RTL.fr, aujourd'hui, on vous demande si, à vos yeux, les lois actuelles sont suffisantes pour lutter contre Daesh. C'est assez clair, vous nous répondez non à 85%, un petit 13% de oui. Alors justement, parlons-en au 3210, on attend vos témoignages, vos idées, vos réactions.
RTL Midi.
Ah, c'est sans doute la photo du jour au lendemain de l'attaque terroriste contre l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. François Hollande a reçu ce matin à l'Élysée les représentants des cultes catholiques, orthodoxes, protestants, musulmans, juifs et bouddhiste. Une rencontre empreinte, on l'imagine, d'une grande solennité, Olivier Bost.
Oui, et les paroles de tous ces religieux dans la cour de l'Élysée se sont voulues apaisantes et rassurantes. Après une heure d'entretien avec François Hollande, Mgr André 23 a appelé les catholiques à ne pas perdre le sens de leur foi.
Leur croyance au Christ ne fait pas d'eux des combattants et des militants. Elle fait d'eux des hommes de paix, de réconciliation et d'amour. Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner dans le jeu politique de Daesh qui veut dresser les uns contre les autres les enfants d'une même famille.
Et dans cette même famille, Dalil Boubekeur, le recteur de la mosquée de Paris, a assuré que tous les musulmans de France réprouvaient, rejetaient l'attentat d'hier à Saint-Étienne-du-Vouvray. Toutes les religions présentes ont affiché cette même unité. François Claveroli, le président de la Fédération protestante de France.
L'unité est la condition de la victoire contre Daesh. Et Daesh perdra. Cela nous a été assuré et cela nous le croyons tous, ici même.
Les représentants des différentes religions ont donc porté le même message que François Hollande, faire bloc, ne pas tomber dans une guerre de religion.
Et dans quelques minutes d'ailleurs, nous serons avec le président du Conseil français du culte musulman, Anouar Bibesh. Cela dit, Olivier Bost, le président, a ensuite réuni un conseil de défense, puis le Conseil des ministres, dominé, on imagine, par cette question du terrorisme.
Oui, et Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, a annoncé que les forces sentinelles, les militaires qui patrouillent pour protéger les Français, seraient mieux répartis sur le territoire. 6 000 hommes en province, 4 000 en région parisienne. Au total, c'est plus de 23 000 militaires, policiers, gendarmes et réservistes qui sont mobilisés pour défendre les lieux sensibles et les grands événements de l'été. Ce Conseil de Défense et ce Conseil des ministres ont aussi permis, une nouvelle fois, de répondre aux critiques de l'opposition, et notamment aux dernières déclarations de Nicolas Sarkozy. Le président des Républicains estime que la gauche est tétanisée depuis janvier 2015. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a répondu à l'ancien chef de l'État dans la cour de l'Élysée.
Je suis un peu sevré des polémiques quotidiennes, réitérées, constantes. Nous ne pouvons pas sortir de l'État de droit pour protéger l'État de droit. Abandonner la République et les principes de l'État de droit pour essayer de sauver nos valeurs serait une manière de consécration, dans la démagogie d'ailleurs, de ce que les terroristes souhaitent atteindre comme objectif.
Après Nice, après Saint-Étienne-du-Vouvray et après donc ces trois rendez-vous ce matin à l'Élysée, la réponse de François Hollande est donc toujours la même, l'unité nationale.
Merci beaucoup, donc Olivier Bost en direct de l'Élysée. Ce débat entre l'état de droit, les valeurs de la République et les objectifs à atteindre dans la lutte contre le terrorisme, eh bien on l'évoquera tout à l'heure avec Eduardo Riancipel, député socialiste proche de Manuel Valls, mais on peut en parler tous ensemble au 32-10 si on vous attend. Donc on l'a compris, à Paris, le président réunis et consultent, mais à Saint-Étienne-du-Rouvray, la population, elle, continue d'exprimer son émotion après l'assassinat du père Jacques Hamel, égorgé hier matin, donc après avoir célébré la messe. Frédéric Veil, vous êtes devant l'église, l'église qui a toujours porte close.
Oui, l'édifice religieux est toujours cerné par les CRS. Ce matin, d'ailleurs, des enquêteurs de la police judiciaire sont venus sur place. Mais ce qui est très émouvant ici, c'est de voir de nombreux habitants qui viennent pour se recueillir ou déposer des fleurs. Une gerbe a même été placée derrière le cordon de sécurité par trois membres d'une association musulmane. Quant au père neveu, ami du prêtre égorgé, c'est une rose blanche à la main qu'il a posée à terre.
Il était discret, il était à l'écoute. Et on a à peu près le même âge. Je le voyais quand on était avec l'évêque. Et on était heureux. On riait, on s'estimait l'un l'autre. Mais il est très ouvert au monde.
C'était réussi. Très, très, très ému.
Oui. Ah oui. Ah oui. Moi, je crois beaucoup qu'il est en bonheur maintenant, complet. D'où il est, il est là, quoi.
Alors dans ce quartier de la commune où vivent principalement des personnes âgées, tout le monde connaissait bien évidemment le prêtre assassiné hier. C'est le cas de Marie qui, en revenant de la boulangerie ce matin, s'est recueillie quelques instants pour honorer la mémoire du père Hamel, mais pas seulement, car elle voulait aussi avoir une pensée pour le paroissien blessé.
Moi je suis malheureuse, c'est pour le petit monsieur qui a été blessé, parce qu'on les connaissait très bien. C'est le monsieur qui habite dans la petite maison là-bas. C'est avec sa femme, il mettait les fleurs, il nettoyait, il faisait des choses à l'église. Là, c'est dur.
Ce paroissien, justement, est toujours hospitalisé. Au CHU de Rouen, ses jours ne seraient plus en danger.
Frédéric Veil, en direct de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray pour RTL.
RTL Midi.
On marque une pause et on se retrouve dans un instant.
RTL Midi, Vincent Parisot.
27 heures après le drame, l'émotion qui s'exprime à Saint-Étienne-du-Rouvray, comme on vient de l'entendre, s'accompagne aussi de questions au vu de ce qu'on sait de l'enquête pour l'instant. Et la principale question, c'est pourquoi ? Pourquoi Adel Khemlich, mis en examen et en détention provisoire après deux tentatives de passage en Syrie, a-t-il été remis en liberté sous bracelet électronique avec assignation à résidence ? D'autant que le parquet de Paris avait fait appel de cette libération. Alors pourquoi, Guillaume Chiez ?
Eh bien, il faut comprendre que c'est une décision qui a été prise en trois étapes. D'abord, janvier 2016, Adel Khemlich est en détention depuis 8 mois, toujours dans l'attente de son jugement. Le jeune homme demande un aménagement, le bracelet électronique. Le juge d'instruction qui suit le dossier va donc se plonger dans l'examen de la personnalité de Khemlich. Il rencontre également ses parents. Khemlich est issu d'une famille sans problème et le jeune homme montre même des regrets sur ses velléités de départ. Le juge d'instruction y croit et rédige une ordonnance France pour lui accorder le port du bracelet électronique. Deuxième étape, le parquet antiterroriste prend connaissance de cette ordonnance, mais il estime que le risque qu'Adel Kermich tente de retourner une troisième fois en Syrie est trop élevé. Le procureur fait donc appel de cette décision. Troisième et dernière étape, c'est la chambre d'instruction qui doit trancher. Trois magistrats indépendants prennent connaissance du dossier, ils analysent les arguments de chacun et tranchent en faveur du juge d'instruction. Le 19 mars, Kermich quitte donc la prison, intègre le domicile familial avec autorisation de sortir entre 8h30 et midi et demi. C'est ce laps de temps qu'il a choisi hier pour perpétrer son attentat.
Merci de ces explications, Guillaume Chiez. Alors, si les magistrats ont pris une telle décision, c'est donc qu'ils avaient des assurances, notamment familiales, car on peut dire que la famille d'Adel Kermich est bien intégrée. Nicolas Burnand, vous êtes d'ailleurs entretenu ce matin avec la grand-mère maternelle du terroriste, et elle vous a bien dit que son entourage familial faisait tout pour éviter cette dérive, hein.
Oui, c'est une femme âgée à la voix tremblante, affaiblie, que j'ai rencontrée sur le pas de sa porte. Elle vit toujours dans le quartier du Château Blanc où Adèle a grandi les toutes premières années de sa vie. Sa grand-mère, Kéra, a d'abord insisté pour dire qu'elle est aujourd'hui en deuil à la fois pour les victimes de cet attentat et pour son petit-fils. Elle condamne ses actes, explique que ses parents, en particulier sa mère, professeure, s'est battue jusqu'au bout pour tenter de ramener Adèle sur le droit chemin. Reprends tes études, trouve du travail, lui avait dit sa mère à plusieurs reprises. C'est également la famille qui avait prévenu les autorités françaises lorsque le jeune homme a tenté à deux reprises de rejoindre la Syrie. Adel Kermich n'entretenait plus de lien particulier avec sa grand-mère depuis longtemps. Il se contentait d'un simple bonjour tous les 15 jours lorsque Kéra se rendait au domicile de ses parents. Elle affirme qu'il s'était radicalisé depuis plus d'un an. À sa sortie de prison en mars dernier, sa famille avait repris espoir. Elle avait même cru un moment que le garçon s'était apaisé, que le dialogue avait été renoué. Elle cherche aujourd'hui à comprendre comment et pourquoi leur enfant a tué sauvagement le prêtre de sa ville en se revendiquant de l'État islamique.
Nicolas Burnand, évidemment, vous pouvez réagir, hein, au 3210, on vous attend au lendemain de cette attaque terroriste. On y reviendra aussi largement dans quelques minutes, hein, avec l'invité d'RTL Midi, Anouar Bibesh, le président du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Et puis tout à l'heure, après 13h, avec Eduardo Riancipel, on évoquera notamment la proposition de François Fillon qu'il a exprimée ce matin sur l'antenne d'RTL, une proposition de relancer le principe de l'intelligence avec l'ennemi passible d'une peine de 30 ans de prison aujourd'hui en France. Si vous roulez vos cigarettes, vous pouvez bien sûr également réagir à cette offensive de deux députés socialistes qui proposent une hausse de 15% des paquets classiques, mais de 30% du tabac à rouler. Ils vont d'ailleurs déposer un amendement à la rentrée dans le projet de loi de finances de la Sécu, car ce tabac à rouler, Odile Pouget, il est beaucoup moins cher, mais il est beaucoup plus nocif que les cigarettes toutes faites.
Oui, beaucoup moins cher, en effet, tout d'abord. Trois fois moins qu'un paquet de cigarettes industrielles. Bertrand Dotzenberg, pneumologue.
Pour 7 euros, vous faites 60, 70, 80 cigarettes, alors qu'avec 7 euros, vous achetez 20 cigarettes ordinaires.
Plus abordable et donc très prisé des jeunes qui commencent souvent à fumer avec du tabac à rouler. Un tabac dont les ventes sont en augmentation constante, plus 7% par an depuis 2 ans. Un tabac qui a aussi des effets plus nocifs.
Il y a de 3 à 6 fois plus de goudron, de particules, de monoxyde de carbone. Le tabac à rouler est plus toxique que le tabac ordinaire parce qu'il brûle moins bien, il est moins bien installé dans les cigarettes.
Alors même avec une augmentation de 30%, comme le demandent les deux députés socialistes, Michel Delaunay et Gérard Bapt, qui vont déposer donc cet amendement fiscal, le tabac à rouler restera toujours moins cher. Mais il y a évidemment d'autres mesures à ce sujet. Les premiers pots de tabac à rouler neutres, sans logo, de couleur kaki, avec le nom de la marque écrit en tout petit, viennent de faire leur apparition chez les quelques buralistes avant le paquet de cigarettes neutres qui arrivera, lui, à partir de septembre.
Donc on peut déjà fumer neutre, hein, c'est-à-dire sans marque, mais là, à condition de se rouler ses cigarettes, et vous nous l'avez expliqué, c'est peut-être moins cher, mais c'est également plus nocif. On en parle évidemment, si vous le souhaitez, au 3210.
RTL, le feuilleton des séries.
Eh oui,
le feuilleton des séries. Laurent Marsic.
C'est votre rendez-vous, le feuilleton des séries, signé Laurent Marsic, chaque jour sur RTL. Et aujourd'hui, un feuilleton, une série que vous connaissez peut-être, Downton Abbey.
Et c'est toute l'histoire de l'Angleterre du début du XXe siècle qui est ici retracée. Du naufrage du Titanic en passant par la Première Guerre mondiale et le mouvement des suffragettes. Sa force réside dans la pléiade de personnages, une trentaine qui évolue autour d'un manoir à Downton Abbey.
Je n'ai pas géré Downton depuis 30 ans pour le voir allouer de fond en comble à un étranger venu de Dieu sait où.
Lord et domestique à égalité, acteurs et actrices également. Au générique, les noms défilent par ordre alphabétique.
Le nouveau valet de chambre est arrivé, monsieur.
Ah oui, d'accord. Merci, Carson.
Une série historiquement juste, ou presque. La reine d'Angleterre, qui est une téléspectatrice attentive, aurait, dit-on, relevé une seule erreur dans les 52 épisodes diffusés.
Je n'ai bien sûr jamais compris pourquoi ces biens doivent revenir à celui qui héritera votre titre.
Ce n'est pas moi qui fais la loi, ma chère.
Kate Middleton, l'épouse du prince William, héritier du trône d'Angleterre, n'aurait également raté aucun épisode dans lequel jouait son premier amoureux. Ils avaient 10 ans à l'époque, il y a donc prescription.
Je suis navrée que vous le preniez ainsi.
Eh bien, je n'en resterai pas là. Je vous aime et vous m'aimez.
Le succès de la série est tel qu'elle a, dit-on, boosté le tourisme en Angleterre. Objet de la visite, la demeure de la famille Crawley.
La bibliothèque est-elle prête ?
Un immense château dans le sud de l'Angleterre. 60 000 visiteurs par an pour Downton Abbey. Il est même possible d'y dormir pour 489 euros la nuit.
Bien, je compte sur vous. Je dois être convenablement vêtu pour ce soir.
Pas de souci, monsieur.
En 2014, alors que la production entamait le tournage de la dernière saison, Downton Abbey va se retrouver au cœur d'une absurde polémique. On annonce la mort prématurée du chien de la famille Crawley. Pourquoi ? À cause de son nom.
Elle a un cancer, la pauvre bête.
Oh non !
ISIS, l'acronyme en anglais de État islamique. Les producteurs tenteront bien d'expliquer, ce qui était vrai, que le nom ISIS faisait référence à l'Égypte ancienne. Rien n'y fera, le chien mourra, alors que la série entamait sa dernière saison.
Elle n'en a plus pour très longtemps. Je n'ai pas pu m'y résoudre.
Downton Abbey reste une série qui aura fait rayonner à travers le monde le savoir-faire anglais, une série construite comme un vrai livre d'histoire, à voir absolument si elle vous a échappé.
Laurent Marsic qui nous feuilletonne les séries télé cet été sur RTL. Laurent que l'on retrouvera évidemment demain. Il est 12h47, une courte pause et dans un instant, invité d'RTL Midi, Anouar Bibesh, le président du Conseil français du culte musulman. A tout de suite.
Vincent Parisot,
l'invité de RTL Midi.
Invité d'RTL Midi, Anouar Bibesh, le président du Conseil français du culte musulman. Bonjour. Et merci d'être en direct sur RTL pour réagir notamment à ce qui s'est passé ce matin à l'Élysée lorsque François Hollande a reçu les représentants des différents cultes, le recteur de la Grande Mosquée de Paris par exemple pour les musulmans, Dalil Boubekeur. Il a demandé au président que les lieux de culte fassent l'objet d'une plus grande attention, d'une plus grande surveillance de la part des autorités. C'est ce que vous demandez aussi au CFCM ?
Effectivement, au lendemain des attentats de janvier 2015, il y a eu un effort considérable qui a été mis en place par le gouvernement avec l'opération Sentinelle, dans laquelle il y a plus de 10 500 militaires qui ont été mobilisés pour la sécurisation des lieux de culte. Et les mosquées, les lieux de culte musulmans bénéficient effectivement de cette protection depuis cette période. Mmh. Aujourd'hui, au lendemain de cette attaque ignoble d'une église avec l'assassinat d'un prêtre en plein messe, il convient effectivement d'analyser les moyens de renforcer la sécurité autour des lieux de culte, pas uniquement musulmans, mais l'ensemble des lieux de culte, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans.
Mais techniquement, mais vous pensez que c'est possible ? Il y en a tellement en France.
Aujourd'hui, sur les 2500 lieux de culte musulmans, il y a 1000 mosquées et lieux de culte qui bénéficient d'une protection continue. Je pense qu'il faut effectivement voir s'il n'y a pas des moyens pour renforcer ou avoir au moins des rondes qui puissent concerner les 1500 autres lieux de culte qui ne bénéficient pas d'une sécurisation actuellement. Mais il faut également souligner que effectivement nous ne pouvons pas mettre des militaires aux portes de chaque mosquée ou cathédrale ou synagogue ou temple. Pour compléter ce dispositif, il faut effectivement une vigilance de tous les instants, notamment de la part des fidèles, notamment de la part des responsables des lieux de culte qui doivent signaler effectivement tout mouvement suspect ou toute, attaque ou menace qui se serait exprimée vis-à-vis de tel ou tel lieu de culte.
Anouar Bibesh, vous savez que dans cette émission, les auditeurs interviennent à l'antenne et dès hier, plusieurs auditeurs musulmans nous ont appelés. Et depuis hier, évidemment, ils mettent un point d'honneur à se désolidariser de Daesh, de ceux qui commettent les attentats. Certains estiment que les musulmans devraient faire un peu plus, peut-être descendre dans la rue, en tout cas pour marquer cette différence entre l'islam cet islam radical de Daesh. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui doit être fait ?
Bah, la dénonciation de ces actes abominables n'a cessé d'être faite par les musulmans de France. Mmh. Il y a certains citoyens français de confession musulmane qui disent, dans la mesure où ce n'est pas l'islam qui est en cause, nous n'avons pas à nous justifier. Mais par contre, au niveau du Conseil français du culte musulman, nous considérons qu'il faut systématiquement dénoncer ces actes barbares, qu'il faut systématiquement se démarquer de ces actes de violence qui n'ont rien à voir avec l'islam et les musulmans de France. Et maintenant, aller manifester dans la rue, il faut savoir quand même ou rappeler que nous sommes en état d'urgence et que les rassemblements de grandes masses peuvent effectivement être interdits pour raisons insuffisantes de sécurité. Maintenant, il faut trouver d'autres moyens effectivement de mobilisation des citoyens français de confession musulmane pour qu'ils crient haut et fort leur dénonciation de ces actes qui sont injustement commis au nom de leur religion.
Anouar Bibesh, ce matin à l'Élysée, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubaker, a souhaité que les musulmans initient une certaine réforme dans les institutions de l'islam en France. D'après vous, qu'est-ce qu'il a voulu dire et est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce qu'il faut peut-être faire bouger un petit peu le fonctionnement, les règles de fonctionnement de l'islam en France?
Je pense, pour en avoir discuté longuement avec le recteur Dalil Boubaker depuis plusieurs mois, que la réforme sur laquelle nous nous retrouvons tous, c'est la réforme de la pensée islamique et c'est la contextualisation de la pratique religieuse musulmane pour tenir compte du contexte français. Mmh. Et donc ce vœu de réforme qui a été formulé et sur lequel se sont retrouvées l'ensemble des composantes de l'islam de France. Et dès le 21 mars, à la réunion de l'instance de dialogue qui s'est tenue autour du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, le CFCM a appelé de ses voeux la mise en place d'un conseil religieux pour qu'il y ait ce travail de réforme qui soit entrepris par des personnes crédibles et légitimes. Et c'est ce qui a été fait dès le 8 mars, puisqu'il y a eu l'installation par le CFCM d'un premier noyau de ce conseil religieux. Et dès la rentrée, au mois de octobre-novembre, ce conseil religieux se réunira pour entreprendre le véritable travail de fond et son travail de réforme. Il doit être fait effectivement parce que c'est une caractéristique de la religion musulmane, le renouveau, la réforme de la pensée islamique et de la pratique religieuse musulmane a toujours été une caractéristique régulière à travers toute l'histoire de la religion musulmane.
Oui, et notamment donc aujourd'hui en France. Merci, on a bien compris que les choses étaient en train de bouger également dans l'islam en France. Merci beaucoup d'avoir été l'invité d'RTL Midi, Anouar Bibesh, président du CFCM. A tout de suite, une courte pause, on va faire un petit saut en 2020. Allez.
RTL Midi, Vincent Parisot.
C'est votre rendez-vous de l'été, hein. On décrypte tous les changements qui nous attendent dans les années qui viennent pour notre vie quotidienne, dans le travail, la santé, les transports, la vie sociale. C'est évidemment le journal du futur, signé Martial Youf.
Le journal du futur, Martial Youf.
18 avril 2020.
Vous connaissiez les mariages express de Las Vegas, mais dans les années 2020, on a découvert le coup de foudre express grâce à l'alliance de la technologie et des réseaux sociaux. Bonjour Martial.
Bonjour Jérôme.
À l'image de ce couple de Français.
Je sais que ça paraît banal, mais dès que j'ai vu Margot, la semaine dernière, j'ai su que c'était elle.
On s'est mariés sur Facebook hier et on organise une grande cérémonie dans 10 jours, le 18 avril, et vous êtes invités.
Alors, pour comprendre, Martial, ce couple a eu le coup de foudre au premier regard, c'est le cas de le dire.
Oui, c'est ce qu'on appelle une lentille de contact, hein. Ça n'a jamais aussi bien porté son nom, puisque la société Cupidon a développé une lentille connectée, Love at First Sight, l'amour au premier regard, qui repère la personne qui pourrait devenir votre compagnon de couple idéal.
Ça veut dire qu'éventuellement, si vous étiez au bout du rouleau, on pourrait envisager de conclure.
Le journal du futur.
Si vous êtes attiré par quelqu'un dans le métro, au travail ou même dans la rue, cette lentille est capable de rechercher grâce aux réseaux sociaux quels sont ses goûts musicaux, quel est son âge, si cette personne aime ou non le sport, quel type de film elle va voir et si elle est célibataire ou non. Et dans la foulée, l'algorithme établit une note pour vous dire si vous avez des chances de vivre une histoire ensemble.
Et on se marie sur Facebook ?
Bah disons que Facebook va se charger d'informer tous vos amis et tous les réseaux sociaux que vous êtes désormais en couple avec telle ou telle personne. Ensuite, il faudra quand même officialiser les choses auprès de la mairie. Une démarche administrative qui sera d'ailleurs vouée à devenir digitale à partir de la moitié du 21e siècle.
Votre fille a 20 ans, que le temps passe vite, madame Ire encore, elle était si petite.
Le système de lentilles nécessite quand même d'être enregistré sur un site de rencontre au préalable. Tout le monde ne veut pas forcément faire une rencontre pour la vie et dans ce cas, votre liaison n'apparaît pas sur les réseaux sociaux, bien sûr.
Il faut dire, Martial, qu'il y a un marché du célibat qui n'a pas cessé de progresser au cours du 21e siècle.
Effectivement, depuis le début des années 2000, le nombre de célibataires n'a jamais cessé d'augmenter. On est autour de 40% dans les années 2020, ce qui représente près de 20 millions de Français. On se marie plus tard et on connaît ensuite des périodes de célibat au cours de sa vie après des divorces. Pour Mai Bocquet, qui est chercheuse à l'université de Stanford, la technologie apporte des solutions, mais pas uniquement.
Donc avec Internet, on a pu favoriser les rencontres, mais aussi favoriser le libertinage. Les objets connectés ont mis du piment dans la vie du couple, mais ont aussi parfois pu éloigner les gens. Donc du coup, finalement, la question, c'est est-ce que l'expérience humaine de la vie à deux et du sexe sans la technologie ne finit pas par être fade ?
Oui, car on assiste à une multitude d'innovations autour du sexe, des innovations qui deviennent très grand public à partir de 2020.
D'abord, l'industrie du porno a énormément investi dans la réalité virtuelle et les technologies 3D. C'était un moyen de créer une nouvelle expérience et aussi de concurrencer le porno gratuit qu'on trouvait sur les sites comme YouTube ou YouPorn. La recherche médicale a aussi beaucoup progressé pour améliorer les orgasmes féminins et les capacités des hommes. Le vieillissement de la population avait créé un véritable marché sur ce point. Et puis, vous avez bien entendu tous les sextoys connectés, Mai Bocquet.
À chaque fois, pour faire passer ces inventions, on communiquait toujours en direction des femmes. C'était des avancées technologiques achetées par les hommes pour faire plaisir à leurs partenaires. C'était un petit peu hypocrite, mais bon.
Pour les parents qui avaient des adolescents à la maison, une application nommée Tabou permettait aussi de parler d'éducation sexuelle avec un jeu sous forme de quiz. Ça pouvait un peu rendre service.
Merci Martial You.
Retour 2016.
Eh oui, retour en 2016. Évidemment, vous retrouverez le journal du futur demain et notamment demain matin avec Jérôme Chapuis. Retour en 2016, au mercredi 27 juillet. On va regarder le ciel.
Il y a ceux qui parlent de la pluie et du beau temps et ceux qui font des bonnes affaires sur Cdiscount. Cdiscount ? Vous êtes plus riche que vous ne le croyez.
Et par la fenêtre, là, je vois pas trop le soleil, Patricia.
Ah, c'est toujours la même chose. C'est toujours bien nuageux sur la moitié nord du pays. On a en plus une nouvelle perturbation qui aborde les côtes de la Manche. Donc, temps très gris, avec un petit peu de pluie même prévu cet après-midi entre la Bretagne, la Normandie ainsi qu'au nord de la Seine. Des nuages sur le quart nord-est du pays. Et dans le sud, au sud de la Loire, c'est un temps très ensoleillé. Un petit peu d'instabilité comme ces derniers jours, en fin de journée, en montagne. Donc, risque d'averse à caractère orageux, notamment sur le sud des Alpes, le relief corse, ou encore sur les Pyrénées. Des températures qui baissent un petit peu sur la moitié nord du pays, c'est un petit peu frais sous la perturbation près de la Manche. 20 degrés à Brest, 21 à Lille, mais 25 à Paris, 28 à Strasbourg, 31 à Montélimar et 35 à Nîmes.
Merci Patricia. Il est 13h.
Le 13h, Vincent Parisot.
Et on vous attend au 32-10 pour réagir à l'actualité comme chaque jour. Actualité évidemment dominée par le terrorisme, l'attaque d'hier à Saint-Étienne-du-Rouvray. Mais on vous attend aussi, puisque beaucoup d'entre vous sont en congé, pour évoquer ces arnaques, petites ou grandes, dont on est souvent victime pendant les vacances. Alors clients, commerçants, restaurateurs, 32-10, racontez-nous. Nous serons à 13h30 avec Martine Pinville, la secrétaire d'État au commerce. Elle va dresser le bilan des opérations de contrôle qui ont été effectuées. Et puis elle nous donnera quelques conseils, mais on attend vos témoignages. Bien évidemment, l'actualité, c'est l'attaque de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Hier matin, l'assassinat du père Jacques Hamel par les deux terroristes, dont l'un est toujours en cours d'identification. Alors, on sait que les assaillants ont fait une déclaration en arabe avant d'égorger le prêtre et de s'en prendre à un autre paroissien, grièvement blessé à la gorge. Hier, il était entre la vie et la mort, Julien Caillard, mais aujourd'hui, son état de santé s'améliore.
Oui, la vie de cet homme de 87 ans n'est ce midi plus en danger. Il aurait été opéré au CHU de Rouen cette nuit. C'est en tout cas ce que m'ont confié certains de ses proches. Cet homme qui a été poignardé à plusieurs reprises dans le cou, les bras et le dos. Et ce, devant sa femme, puisqu'elle aussi était à l'église hier matin. Elle a d'ailleurs cru que son mari avait été tué. Mais l'homme a eu les bons réflexes. Il a tout simplement fait le mort pour cesser d'attirer l'attention des terroristes. Il a également maintenu ses doigts sur ses plaies pour qu'elles saignent le moins possible. Des gestes qui lui ont sans doute sauvé la vie. L'homme a pu être pris en charge à temps par les secours. Sa femme, elle, a pu bénéficier d'une aide psychologique. Les enfants du couple sont arrivés d'Évreux et de région parisienne pour soutenir leurs parents.
Julien Caillard, donc nouvelle rassurante hein, pour ce blessé. Depuis hier, les réactions politiques sont extrêmement nombreuses, notamment à droite. Nicolas Sarkozy estime dans un entretien au Monde publié cet après-midi que ces attentats ont sidéré la gauche. On va en venir dans un instant. Mais dans l'opposition, il y a aussi ceux qui disent pas besoin de toucher à la loi, il y a déjà un article qui prévoit jusqu'à 30 ans de prison pour ceux qui agissent contre la France. Écoutez François Fillon, invité d'RTL ce matin.
On a les moyens juridiques de lutter contre ce phénomène parce que nous avons déjà connu des situations aussi graves que celles-là dans notre histoire. Et nous avons dans le code pénal toutes les dispositions, je le répète depuis des semaines et des semaines, toutes les dispositions qui permettent de lutter contre le terrorisme. Il y a notamment, dans ce qu'on appelle le livre 4 du Code pénal, une disposition qui permet de condamner jusqu'à 30 ans de prison toute personne qui entretient des relations avec l'ennemi. Bon, l'ennemi aujourd'hui, c'est bien l'État islamique.
Voilà, donc François Fillon ce matin sur RTL. Est-ce qu'on peut vraiment réactiver cet article sur l'intelligence avec l'ennemi? Est-ce que c'est possible sans être officiellement en guerre contre un État reconnu? Eh bien écoutez ce qu'en dit le pénaliste Didier Rebut avec Benjamin Sportouche.
Cette proposition est assurément intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle consiste à réclamer d'appliquer aux terroristes des infractions qui sont des infractions que l'on appelle d'intelligence avec l'ennemi. Néanmoins, l'application de ces infractions à ces individus et plus particulièrement à la personne qui a commis l'attentat d'hier s'avère difficile parce que ces infractions n'ont pas été conçues pour s'appliquer à des actes de terrorisme, elles ont été conçues pour s'appliquer à des actes, à des situations de guerre classiques et là il peut y avoir un problème. Et concernant l'individu qui a commis l'acte d'hier, eh bien, il faudrait faire la preuve qu'il y a bien eu un accord précis pour commettre l'infraction qui a été commise hier, alors que nous sommes peut-être plutôt en présence d'appels généraux à commettre des infractions qui sont repris comme ça, sans plan précis, sans plan concerté entre l'organisation étrangère et les individus qui agissent.
Voilà, le pénaliste Didier Rebut. Donc, mais qui dit bien que la proposition de François Fillon est à ses yeux intéressante. On va en reparler hein, d'ailleurs. Hein. Et puis la question, c'est de savoir jusqu'où on peut aller dans la lutte antiterroriste. Est-ce qu'il faut prendre d'autres mesures en accord ou non avec ce qu'on appelle l'état de droit? On sera tout à l'heure avec le député socialiste Eduardo Riocipel. Nicolas Sarkozy, lui, se livre à une attaque encore un peu plus politique aujourd'hui dans Le Monde. Benjamin Sportouche, il estime que la gauche est tétanisée.
Oui, l'ancien chef de l'État tape fort une nouvelle fois contre François Hollande. Selon lui, la violence et la barbarie ont sidéré une partie de la gauche depuis janvier 2015 et son discours ne correspond plus à la réalité. Nicolas Sarkozy cible plus particulièrement Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux, coupable à ses yeux de désarmement pénal. Et la preuve, selon lui, de cette défaillance, c'est que le jeune assassin du prêtre était sous contrôle judiciaire. Comment a-t-il été laissé libre de commettre un tel attentat, s'interroge Nicolas Sarkozy. L'ancien président réclame une fois de plus une rétention administrative pour les individus fichés les plus dangereux, à l'image des internements psychiatriques d'office. En revanche, Nicolas Sarkozy met un bémol à ses propos d'hier. Vous savez, il avait accusé le gouvernement de se cacher derrière des arguties juridiques. Ce sont ses mots pour ne pas agir. Tollé de la gauche, qui lui a aussitôt reproché de ne pas vouloir respecter les principes de l'état de droit. Adapter l'état de droit ne veut pas dire le remettre en cause, répond-il aujourd'hui dans Le Monde. Un ton en dessous donc dans les mots, même si dans les faits, bon nombre de ces propositions sont en contradiction avec le droit tel qu'il existe aujourd'hui.
Merci Benjamin Sportouche. Eh bien ce débat va se poursuivre tout à l'heure avec vous au 32-10 et avec le député socialiste Eduardo Riocipel. L'émotion évidemment reste immense à Saint-Étienne-du-Rouvray mais aussi partout en France, notamment bien sûr chez les catholiques. Ainsi ce matin à Lourdes pour la messe internationale, l'archevêque de Westminster, Mgr Nichols, a eu ces mots pour les victimes et pour les Français.
Je vous demande de prier pour le père Jacques Hamel, qui a été assassiné, et puis pour ceux qui ont été blessés et ont été associés par ces événements tragiques. Prions aussi pour l'Église en France et pour le peuple de France pendant ce jour difficile et triste.
Voilà donc Mgr Nichols, l'archevêque de Westminster, ce matin lors de la célébration de la messe internationale de Lourdes. Patrick Tegero, d'ailleurs, vous êtes sur place pour RTL à Lourdes et vous avez constaté que la sécurité y a été particulièrement renforcée.
Oui, il faut rassurer ici. Alors de leur côté, les sanctuaires de Lourdes ont renforcé leur dispositif de sécurité en hommes et en caméras. On va faire appel aussi à la vigilance des bénévoles. Ce matin, j'ai visité un des PC sécurité, d'où l'on surveille via vidéo tous les accès. Mathias Terrier est le porte-parole des sanctuaires.
Évidemment, nous avons également collaboré avec les services de l'État pour que soit renforcée la mise à disposition de personnel de sécurité venant de l'État. Nous avons autorisé également des patrouilles en armes dans le sanctuaire.
Des militaires en armes devant la basilique, sur l'esplanade, c'est du jamais vu. Et puis ce sanctuaire, on ne le surveille pas comme un centre commercial ou un stade.
Ce lieu est un lieu de concorde, un lieu de paix, un lieu de prière. Il doit le demeurer et il le demeurera. Quoi qu'il arrive. Mais notre devoir, c'est de prendre en compte le contexte actuel et de faire en sorte que les pèlerins soient bien accueillis. Et pour qu'ils soient bien accueillis, une des conditions essentielles, c'est en effet qu'ils se sentent en sécurité.
Une tâche très délicate, les sanctuaires couvrent 50 hectares, il y a 5 portes, d'ailleurs certaines vont être condamnées, et ce sont des millions de pèlerins qui viennent ici chaque année pour le seul pèlerinage national. Le 15 août prochain, on attend plus de 15 000 personnes.
Patrick Tegero, en direct de Lourdes pour RTL. Notez que le Conseil des ministres de ce matin a décidé de lancer un plan d'aide aux céréaliers français. Il prévoit des mesures fiscales, le report de cotisations sociales, un fonds de garantie. La FNSEA a annoncé ce matin qu'il faut s'attendre à une baisse d'un quart de la récolte de blé cette année en raison des intempéries du printemps. La Coupe d'Europe de foot reprend ses droits. Il ne s'agit pas encore de la Grande Ligue des Champions, mais des matchs de qualification. On appelle ça le tour préliminaire. Monaco, troisième du championnat de France, se déplace donc ce soir en Turquie pour affronter le club de Fenerbahçe. C'est le début d'un parcours qui s'annonce semé d'embûches et qui permet d'ailleurs très rarement au club français de se qualifier, Thibaut Geffrotin.
Oui, cela fait 4 ans que les clubs français ne franchissent pas les tours de qualification de la Ligue des Champions. La dernière fois, c'était Lille qui avait eu de la chance au tirage en tombant sur le modeste FC Copenhague. Surtout, Lille n'avait eu qu'un seul tour à disputer pour accéder à la plus prestigieuse compétition européenne. Depuis, le coefficient UEFA de la France a baissé, c'est-à-dire qu'au lieu d'un seul match de barrage à disputer, le troisième du championnat de France doit désormais disputer 2 tours et donc être prêt dès la fin du mois de juillet, ce qui implique une préparation anticipée et donc plus compliquée. De plus, la réforme de la Ligue des Champions est passée par là. Il y a désormais 2 parties de tableaux distinctes. La voie des champions des petites nations et la voie des non-champions qui terminent au 3e ou 4e place des grands championnats. Concrètement, au lieu de jouer un match de barrage contre un club finlandais ou slovène, comme c'était le cas par le passé, Monaco risque d'affronter Manchester City, Porto ou Villarreal. Une vraie inquiétude quand on se souvient des précédents. Lyon ridiculisé par la Real Sociedad, Lille surclassé par Porto et l'an dernier, Monaco déjà éliminé par les Espagnols de Valence.
Ouais, donc le tour préliminaire peut être, en tout cas pour les Français, un cadeau empoisonné. Merci.
Exactement.
Thibaut Geffrotin.
Au fil des rues, avec Laurent Deutsch sur RTL.
Eh oui, c'est Laurent, ce grand passionné d'histoire qui nous emmène au fil des rues de la capitale chaque jour sur RTL. Et aujourd'hui, on va avec Laurent Deutsch, rue de la Verrerie.
Aujourd'hui, je vais vous amener dans le 4e arrondissement, sur la rive droite, dans l'est de Paris, en plein cœur du Marais. La rue de la Verrerie, c'est une rue très étroite. Aujourd'hui, on la voit à peine. Il faut vraiment la chercher pour l'emprunter. Mais jadis, c'était une des rues les plus stratégiques, les plus essentielles de la capitale. Elle était hyper active, hyper empruntée, puisqu'elle faisait partie de ce qu'on appelait, quand la rue de Rivoli, qu'on connaît aujourd'hui, n'existait pas, elle faisait partie de la grande croisée de Paris. Cet axe qui permettait d'aller d'est en ouest dans la capitale sur la rive droite. En plus, on est au 12e, 13e siècle, donc Paris, la rive droite en particulier, est très commerçante, elle est bouillonnante. Eh bien, va s'installer dans cette rue une corporation, une confrérie de marchands, et pas n'importe lesquels, les peintres sur verre, les maîtres émaillés, qui ont beaucoup de travail, puisqu'au 12e et 13e siècle, on est en pleine période de construction des cathédrales, donc il y a beaucoup de vitraux à peindre, et donc ils s'installent là, et ils ont du travail. D'où son nom, rue de la Verrerie. Et qu'est-ce qu'ils font, les verriers et les émailleurs, quand ils n'ont pas de vitraux à peindre? Eh bien, il y en a un d'entre eux, à peu près au niveau du 28 de la rue de la Verrerie actuelle, qui s'appelle Jacques Gringonneur, et qui va révolutionner le patrimoine culturel des Français en diffusant le jeu de cartes. Il est peintre, Jacques Gringoneur, et donc il va peindre des cartons, il va peindre des jeux de cartes qu'il va offrir au roi de France de l'époque, qui s'appelle Charles VI. Il est un peu cinglé, Charles VI, mais il a adoré les cartes. Il va tellement adorer qu'il va obliger tout le monde à jouer autour de lui aux cartes. Tout le monde va se prendre de passion pour les cartes, à tel point que l'économie va être au ralenti, tout le monde va s'arrêter, tout le monde va se mettre à jouer aux cartes en permanence et tout le temps. Et si bien qu'en 1397, on va devoir promulguer un édit royal pour interdire aux commerçants et aux artisans de jouer aux cartes les jours ouvrables. Ceux qui ont inventé les cartes à jouer, ce sont les Indiens. Les cartes viennent d'Inde et elles ont été amenées en France au XIVe siècle par Esmeralda et les Gitans. Mais Jacques Gringoneur a su la proposer à la bonne personne, à savoir le roi, qui donc va faire diffuser tout ça. Et vous saviez que cette anecdote, elle est encore présente aujourd'hui dans tous les jeux. Parce que la figure du roi de cœur, eh bien, c'est pas autre chose que Charles VI.
Retrouvez Métronome 2 de Laurent Deutsch dès le 1er septembre aux éditions Michel Lafon.
Voilà, et puis retrouvez Laurent Deutsch également sur RTL, demain à la même heure dans RTL Midi, mais aussi dans RTL Matin à 7h et 9h15. Patricia Charbonnier, le ciel est assez chargé, il ne fait pas frais, hein, mais le ciel est quand même bien gris au nord.
On a des températures de saison sur la moitié nord, c'est peut-être quand même un petit peu frais sur les côtes de la Manche, hein, sous les nuages de la perturbation qui peuvent même donner un petit peu de pluie cet après-midi entre la Bretagne, la Normandie et au nord de la Seine, avec 20 degrés à Brest, 21 à Lille. Ailleurs, c'est un temps plus sec, plus d'éclaircies dans la partie nord-est et des températures de saison et du grand soleil au sud de la Loire. Mais comme hier, on aura quelques averses en fin de journée en montagne, notamment sur le sud des Alpes. Le relief corse est sur les Pyrénées et les températures dans la partie sud, toujours très estivales, hein, jusqu'à 35 degrés cet après-midi à Nîmes, 33 à Perpignan, 31 à Montélimar, 29 à Toulouse, 28 à Strasbourg et 25 à Paris.
Merci Patricia.